OK, si tu veux tourner avec moi, on va aller dans Genèse chapitre 7. On va lire tout le chapitre. Genèse chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crûrent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la face des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux soulevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Alors, si vous voulez, on va demander la bénédiction de Dieu dans notre étude. Alors, notre Dieu, nous venons en ta sainte présence, nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous as aimés de toute éternité, tu nous aimes encore et tu le manifestes de tellement de manières dans nos vies. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce pour ton amour, ta miséricorde, les soins que tu prends, les tendres soins, comme on l'a chanté tantôt, que tu prends de chacun d'entre nous. Et Seigneur, on a besoin que tu nous éclaires. Car tu nous le dis dans ta parole, sans toi, on ne peut rien faire, même lire la parole intelligemment. On a besoin de ton esprit, on a besoin que tu nous guides, que tu nous éclaires, que tu nous fasses comprendre les textes qu'on étudie, que tu nous fasses voir les principales leçons que tu as bien voulu inclure dans ces chapitres-là, pour qu'on mette toutes ces choses en pratique dans nos vies, pour ressembler davantage à Jésus-Christ. Et on sait que la barre est haute. Alors, Seigneur, bénis-nous et permets qu'on soit vraiment, qu'on grandisse et qu'on s'édifie ce matin en toi. On te le demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
Alors, j'ai intitulé tout simplement la leçon d'aujourd'hui, le cataclysme du déluge universel exécuté. On sait que le Seigneur avait averti qu'il le ferait et maintenant on assiste à l'exécution de son affaire. Alors, le mot cataclysme, ça vient du grec kataklousein et qui veut dire inondé. Ça réfère à un bouleversement de la surface de la Terre par une catastrophe, soit une inondation, un tremblement de terre. Alors, dans le chapitre 7 de la Genèse, le mot cataclysme est tout à fait approprié, puisqu'il s'agit d'une unique et terrible catastrophe, d'une ampleur universelle, avec rien de comparable aux phénomènes naturels que les hommes ont régulièrement expérimentés au cours de leur histoire. Dès qu'on regarde la télévision, on en voit régulièrement toutes sortes de choses qui se passent à la Terre. Mais le déluge, ça n'avait rien de comparable avec toutes sortes de choses qui se sont passées sur la Terre, des immenses tempêtes, des vents pour arracher des arbres, les toits. On en voit régulièrement. Moi, je sais que vous en avez vu beaucoup dans ma vie. Mais le déluge, quand on parle d'un cataclysme, celui-là, c'en est un universel. Quand on parle qu'il y a tellement d'eau que ça soulève l'arche, ceux qui ont eu la chance d'aller voir un petit peu la grosseur de l'arche, là, avec les documents que vous avez donnés sur Internet, ceux qui ont été, là, vous avez comme une idée de la grosseur de ce bateau-là qui a pu avoir suffisamment d'eau pour qu'il lève, qu'il flotte. À quelque part, on voit que c'était quelque chose de grand. Et 15 coudées, c'est 22 pieds. 22 pieds plus haut que les plus hautes montagnes. Ça veut dire qu'il y avait de l'eau, pas à peu près. Alors, un passage qui nous enseigne que le Seigneur veille sur sa parole. C'est une chose intéressante de lire la parole de Dieu et de savoir qu'est-ce que la parole dit. Tout à l'heure, j'entendais Lucie qui disait qu'en lisant la parole de Dieu, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça nous éclaire, ça nous dirige, mais ça nous emmène la crainte de Dieu et ça nous sanctifie. Mais le Seigneur, il dit dans sa parole qu'il veille sur sa parole. Combien de fois j'ai lu les Écritures et quelques passages ou quelques livres après, parfois le Seigneur fait référence à quelque chose qu'il a dit 3, 4, 5, 6 livres avant ou 4, 5, 6 chapitres avant. Puis nous, on l'a déjà oublié. Mais le Seigneur n'oublie jamais de quoi que ce soit qu'il dit. Ça, c'est intéressant de connaître cette caractéristique de notre Dieu-là. Parce que ça dit dans Jérémie, chapitre 1, les versets 11 et 12. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, « Que vois-tu, Jérémie? » Et je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que lui, il n'oublie pas un mot à partir du premier de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse. Moi, ça m'est arrivé souvent. Ah, il fait référence à quelque chose qu'il a dit bien avant, dans un autre livre, souvent. Et on l'oubliait d'eux. On oublie avec une rapidité, nous autres, déconcertante. Mais ce n'est pas le cas du Seigneur. Quand il dit quelque chose, il se rend au bout de ce qu'il dit. Alors, on se devrait aussi de prêter une oreille attentive à sa promesse de détruire la terre un jour avec un autre moyen. Voyez-vous, il l'avait dit qu'il ferait par là, puis là, on est en train de voir aujourd'hui qu'il le fait. Mais une des leçons qu'on devrait retirer de l'étude de ce texte-là ce matin, c'est de celui qui nous dit, qui nous fait une promesse qu'il va détruire la terre une autre fois. Et qu'il l'a fait dans 2 Pierre, au chapitre 3, les versets 3 à 7. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toute chose demeure comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Or les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Si on parle de cette destruction-là qui s'en vient, et beaucoup de personnes pensent qu'on est très proche de la fin, beaucoup de monde croit ça dans toutes sortes de livres, et ils nous disent que ça s'approche. Mais si on dit ça autour de nous autres, là, on va subir ce que le texte dit, les moqueurs. Finalement, depuis eux autres, ils calculent ça en millions d'années, en milliards d'années. Ils vont dire ça n'a pas changé les contes de Père Noël. Mais à quelque part, si on lit les Écritures attentivement, on se rend compte que quand le Seigneur dit quelque chose, il le fait toujours. Le temps, pour lui, ça n'a pas la même dimension que nous. Alors, on a vu dans les versets 1 à 9, on voit qu'il y a eu une préparation au cataclysme. Autrement dit, Dieu avertit toujours ses prophètes des choses qu'il s'apprête à faire. Surtout une chose de cette ampleur-là. Alors, l'Éternel, dans le verset 1 du chapitre 7, l'Éternel dit à Noé. Voyez-vous, c'est pas Noé qui a fini son arche, puis après ça, il a dit, « Bon, là, elle est finie. Là, je vais embarquer. » L'Éternel dit à Noé, « Entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. » L'homme Noé, qui est un homme saint, parce que ça dit qu'il était juste devant l'Éternel, il n'a pas à prendre des initiatives. C'est Dieu lui-même qui le commande à un moment précis d'entrer, parce que c'est là que ça va se passer. Et il lui avait dit, va, entre. Le verbe « entre » démontre que Dieu sera présent avec lui dans l'arche et que celui-ci sera davantage plus qu'un refuge, mais ça va devenir un palais. Parce que là où Dieu est, même si c'est... Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les vidéos que je vous avais proposées, là, mais quand on visite l'arche de Noé, qui ont... il y en a deux en réalité actuellement dans le monde, que je sache. Là. Il y en a une en Hollande, qui, cette arche-là peut se déplacer, puis il y en a un autre aux États-Unis, à Arkansas, voilà, où ce que je vous ai parlé la semaine dernière. Alors, ces arches-là sont là et on peut les visiter, les gens peuvent les visiter. Alors, ça me donne une idée de la grosseur de ces choses-là. Alors, quand le Seigneur dit « entre », ça veut dire qu'il est à le temps. Et la préparation, dans le verset 2, avec 3, 2 et 3, nous montre que Dieu avait prévu les besoins qu'ils étaient pour connaître durant le temps qui était pour être là-dedans. Ils ont été là-dedans plus qu'un an. Alors, il dit « Tu prendras avec toi tous les animaux, cette paire de chaque pied, pur et impur », c'est la question que les animaux... purs pouvaient être offerts en sacrifice, les animaux impurs, non. Donc, il fallait qu'il y ait plus d'animaux purs que d'animaux impurs, parce que le fait que tu devais en sacrifier, ça impliquait qu'il n'est, parce que si tu n'avais que deux, tu en sacrifies un, tu viens de briser la race. Alors, le Seigneur avait prévu toutes ces choses-là. Alors, il avait prévu ses besoins. Pour l'activité humaine, on sait que les animaux, dans l'histoire humaine, ont eu plusieurs rôles comme utilité. Aide au travail, si vous enlevez toute l'aide que les animaux ont fait, par exemple dans l'agriculture, les chevaux, les bœufs, vous allez voir que l'homme a travaillé pas mal plus fort. Après ça, ça les a servi à la fois aussi de nourriture et bientôt aussi du vêtement. Alors, on voit aussi le Seigneur quand il dit « entre », parce que là, il lui dit combien de temps qu'il va rester avant que ça commence. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. C'est intéressant de regarder les chiffres dans les Écritures. Les chiffres dans les Écritures, 7, 3, ça a toujours une signification très profonde. On sait que 7, c'est souvent le chiffre de la perfection, 40, c'est souvent le chiffre de l'épreuve. Puis si vous regardez à travers les Écritures, c'est souvent quelque chose qui est très constant. Alors, quand on apprend un petit peu la signification des nombres et qu'on lit dans les Écritures, en lisant les Écritures, qu'on applique ce qu'on a appris, on enrichit beaucoup notre Écriture, notre compréhension. Alors, bien entendu, quand Dieu dit « Je ferai pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits », ça implique que Dieu a la capacité de faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits sans arrêter. Quand on a ici au Québec une journée qui pleut toute une journée, on trouve ça long. Mais 40 jours, puis là, ça arrête bien souvent la nuit, c'est jamais bien plus que quelques heures. Là, c'est 40 jours et 40 nuits sans arrêt. À quelque part, ça faisait beaucoup d'eau. Je pourrais développer ça, mais je ne le ferai pas ce matin à cause du fait que je n'ai pas beaucoup de temps. Le chiffre 40, on pourrait tout prendre des exemples où le chiffre 40 est utilisé dans les Écritures pour parler justement du fait des épreuves. Moïse, quand il est monté sa montagne, on va le faire rapidement. Moïse, quand il est monté 40 jours. Le jeûne de 40 jours au Seigneur, Jésus, il a jeûné pendant 40 jours. La marche d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Alors, le mot 40, il revient continuellement, puis c'est toujours, presque toujours, avec la même signification. Alors, les versets 1 à 9, c'est vraiment Dieu commence à préparer son serviteur à ce qui va arriver. Alors, on sait, l'Éternel a le droit de la vie et de la mort, parce que c'est lui qui l'a créé. Et il pouvait se permettre de faire mourir tous les animaux de la terre et faire mourir les personnes qui étaient présentes sur la terre à cette époque-là. Je vous l'avais déjà mentionné, on estime à peu près à 2 millions de personnes qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Alors, imaginez, il y en a 8 qui ont été sauvés, les autres ont été noyés. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le verset 5 qui nous montre comment Noé avait écouté l'Éternel. On parle de 120 ans. On parle de 120 ans pour construire. On parle d'une centaine d'années pour construire ça, là. Ceux qui ont regardé un petit peu sur Internet là, ce bâtiment-là qu'ils ont fait, soit qu'ils l'ont fait les quatre hommes avec l'aide des femmes, ou soit qu'à l'époque, ils ont engagé des gens qui n'étaient pas nécessairement des croyants, mais qui ont pu engager pour faire le travail. À quelque part, on voit qu'avec les moyens de l'époque, construire une affaire de cette grosseur-là, c'était vraiment assez spécial. Et les Écritures, dans le verset 6 et 7, nous donnent aussi même l'âge de Noé. Ce qui nous permet de savoir en quelle année exacte à partir du début de la création. Fait que quand les personnes qui sont habituées avec de regarder comment on peut calculer tout cela, l'évêque Usher a fait un travail extraordinaire dans le temps. Tout calculer ça, et ça sert encore ces choses-là. Alors, si Dieu nous dit, alors d'après les érudits de la chronologie biblique, il se serait donc passé 1656 ans depuis le début de la création. Alors, le Seigneur a laissé toute la terre se développer pendant 1656 ans. Et en 1656, d'après les chiffres qu'on a, il se serait décidé de détruire tout cela. Alors, on sait que la providence de Dieu permet que les animaux purs et les animaux impurs, on l'a vu tantôt, ça avait surtout pour but de prévoir les futurs besoins de l'homme en termes de travail, en termes de nourriture et en termes j'ai dit tantôt, je ne me souviens plus. Autre chose qu'on va regarder dans le verset 10 et dans le verset 10 à 16. On avait vu aussi la semaine dernière que Dieu lui-même, parce que souvent, dans notre sermon la semaine dernière, on avait plusieurs personnes ont des questions concernant comment Noé peut avoir fait pour avoir cherché un de chaque sorte de tous les animaux de la terre. On avait vu la semaine dernière que c'était Dieu lui-même qui mettait dans l'esprit que les animaux eux-mêmes se dirigent vers l'arche. Alors ça, c'est intéressant de voir tout cela. Et quand on regarde versets 10 à 12, tout à l'heure, on disait que Dieu veillait sur sa parole. 7 jours après, qu'est-ce qu'il avait dit tantôt, dans 7 jours? On a un exemple très concret ici. Dans 7 jours après, les eaux du déluge sont sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé. Intéressant, hein, la précision de la parole de Dieu. Le 17e jour du mois, ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, les écluses des cieux s'ouvrirent, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui se sont produites. L'eau venait de deux directions. D'en haut, 40 jours et 40 nuits, et les écluses, on parle des les sources du grand abîme jaillir. Donc, à quelque part, on sait que sous la terre, il y a beaucoup d'eau. Le Seigneur a permis que ça brise la croûte terrestre et que les eaux souterraines montent à la surface. Alors, prenez la combinaison des deux. Ça venait d'en bas et d'en haut et sous le contrôle de la providence de Dieu, de la volonté divine. Alors, quand on voit si les personnes qui calculent la chronologie biblique sont précis, selon, ça serait le mois de Marchevent, qui c'est un mois selon les Juifs, là. Ce serait au mois de novembre, le 17 novembre 1656. On peut aller à cette précision-là selon les commentateurs bibliques. Alors, c'est quand même. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, au verset 6, ça dit: Et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. On imagine l'ampleur de la catastrophe que les animaux, au début, quand ça a commencé à tomber, 2 jours, 3 jours, on devait sentir l'angoisse arriver, puis là, à un moment donné, ça montait, ça part par en haut, par en bas. Il devait y avoir une panique terrible sur la Terre à un certain moment donné quand ils ont vu qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. En anglais, j'aime bien la version King James parce qu'ils disent quelque chose. Les eaux du grand abîme jaillirent. En anglais, dans la King James, ça dit All the fountains of the great deep broken. Les fontaines de la. Parce qu'on grand abîme, c'est toutes les eaux souterraines, autrement dit, que Dieu permettait par sa puissance qui arrive sur la terre. Et dans le verset 13 à 16, Dieu nous remet à l'esprit tous ceux que, dans sa providence, dans sa grâce, il avait décidé de sauver. Noé, sa femme, il avait 3 fils. Et les 3 femmes de ses fils, donc 8 personnes qui ont été sauvées sur l'immense quantité de personnes et d'animaux qu'il y avait sur la Terre à cette époque-là. Et ceux que ça intéresse concernant, parce qu'il y a beaucoup d'incroyants qui vont prendre la liste moderne des animaux d'aujourd'hui et qui vont dire c'est littéralement impossible que tous les animaux, et là, ils partent avec des calculs. Et si ça en a, il y en a d'entre vous, c'est des choses qui intéressent, je vous recommande de retourner voir sur les sites que je vous ai donnés qui parlent du créationnisme. Il y a des chrétiens savants, très savants même, qui ont pris la peine de tout calculer ça. Et c'est toutes des choses qu'on peut trouver des réponses. Quelque part, c'est parce que des fois, ils partent avec une mauvaise attitude. Et ils ne tiennent pas compte de certaines données que les scientifiques chrétiens, eux, prennent en. C'est intéressant aussi de le verset 13, il y a dans l'original hébreu, en ce jour-là, si on lit comme ça, en ce jour-là, ça ne nous dit pas grand-chose, ça dit juste en ce jour-là, le jour, le 7e jour. Que le Seigneur. Mais dans l'hébreu, souvent, la langue hébreu va donner une idée, une caractéristique de ce jour-là qui est présente dans le texte hébreu, mais qui est difficile à traduire en français. En anglais, autrement dit, au lieu de dire en ce jour-là, on pourrait traduire dans l'os du jour. En anglais, c'est in the bone. Or the strength of essence. L'idée, c'est que le Seigneur n'a pas fait que cette affaire-là arrive la nuit, autrement dit, le début. Dans l'os du jour, ça veut dire dans le côté solide, manifeste, que tout le monde pouvait le voir. Oui, dans l'hébreu, cette idée-là est présente, dans le sens que le Seigneur a permis que l'événement du début du déluge arrive de façon manifeste, que tout le monde le voit en plein jour. C'est pour ça que quand on dit dans l'os du jour, on ne pourra pas traduire ça comme ça en français, là, parce que le monde n'y comprendra rien. Mais des fois, l'idée est là, mais quand tu dis en ce jour-là, l'idée, ceux qui connaissent l'hébreu, nous amène avec des observations semblables que je trouve très intéressantes. Autrement dit, le Seigneur a permis que le début du déluge arrive d'une façon publique, arrive d'une façon manifeste, que tout le monde peut le voir, que tout le monde puisse réaliser, c'est ce que j'ai promis qui est en train de s'accomplir. Alors les gens qui étaient là, les 2 millions qui sont morts, ils ont commencé à réaliser à partir du moment, mais quand le texte nous dit que le moment donné, le Seigneur lui-même a fermé la porte, ils sont rentrés et ça dit. C'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est le Seigneur, un peu comme nous, actuellement, le Seigneur annonce l'Évangile, on peut être en Christ, mais à partir du moment où que le moment du jugement va être terminé, comment que les gens voudront, il va être trop tard. Un peu comme là, il était trop tard à partir du moment que le Seigneur ferme la porte de l'extérieur, il ne peut plus rentrer personne dans le bateau. Oui, vous, le verset 16 nous dit ça. « Et ceux qui vinrent, mâles et femelles de toute chair, comme Dieu, et dans le texte original, c'est Elohim, le lui avait ordonné, et l'Éternel, Jéhovah, ferma l'arche sur lui. » Très intéressant aussi, ces changements de nom de Dieu dans la même phrase. C'est souvent très significatif, mais nous, on le lit rapidement, plus que ça. Et Dieu, comme Dieu, le lui avait commandé, Dieu Elohim. Elohim, c'est une allusion au Dieu trinitaire. Et Jéhovah, le Dieu de l'Alliance, ferma l'arche sur lui. Donc, c'est le Dieu de l'Alliance qui ferme l'arche, mais c'est le Dieu trinitaire qui l'avait commandé. Souvent, ces mots-là, souvent quand on lit les Écritures, on ne porte pas beaucoup attention à ces choses-là. Mais quand on lit les commentateurs qui connaissaient l'hébreu, ils nous font réaliser qu'il n'y a pas un mot dans les Écritures qui n'est pas là avec une intention de véhiculer une idée très précise. Alors, quand Dieu change de nom dans la même phrase pour parler de lui-même ou ce qu'il a fait, ça véhicule une idée. Et souvent, on manque le bateau parce qu'on ne connaît pas la langue ou qu'on ne fouille pas dans les commentaires. On va regarder aussi les versets 17 à 24. La présomption, qu'est-ce que c'est la présomption? La présomption, c'est que là, on est en train de dire que le Seigneur va détruire le monde par le feu un jour. La présomption, c'est que comment je me promènerai dans Nantes, dans Lac-Mégantic, dans Montréal, dans la grandeur du Québec ou même dans la grandeur du monde, puis que je dis, le Seigneur bientôt va vous détruire par le feu. La présomption, c'est, qu'est-ce qu'il fait? Que ça en va, c'est ce qui. Alors, c'est sûr que la présomption, c'est le fait qu'ils ont été avertis. Parce qu'on dit de Noé qu'il était un prédicateur de justice. Pendant 120 ans, durant le temps qu'il a préparé son arche, il a prêché régulièrement aux gens, les avertir que le jugement s'en venait. Mais 120 ans, c'est long. Mais pour le Seigneur, c'est pas long. Alors, il fallait que ça prenne un gars qui a de la suite des idées, puis qui a la foi réelle pour continuer à avertir le monde pendant 120 ans qu'il y a un jugement qui s'en vient. Là, ça fait 10 ans que tu prêches, puis le gars dit, « Oh, oui, ça fait 10 ans que tu nous dis ça. » Là, au bout de 20 ans, « Mais ça fait 20 ans que tu nous dis ça. » Mais il reste qu'un jour, la masse tombe et le jugement arrive. Et dans le verset 17 à 19, ça dit, « Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Et elle s'éleva de dessus la terre, et les eaux grossirent et crurent fort sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. » Verset 19, « Et les eaux grossirent prodigieusement. » C'est difficile pour nous, parce qu'on n'a jamais vu ça. C'est des références à des choses qu'on n'a jamais vues. Mais imaginons qu'il pleut, puis à un moment donné, là, on est rendu... On le voit des fois, il y a des inondations. Des fois, les gens se promènent, ils longent jusqu'aux genoux, ils longent jusqu'à la ceinture. Mais c'est parce qu'ils savent que c'est juste un phénomène météorologique qui va probablement... Mais si les gens avaient l'idée que c'est un jugement divin, puis que ça n'arrêtera pas. Et là, t'es rendu là, puis là, t'as beau à t'accrocher après tout ce que tu voudras, là, mais il va venir un temps que, à cause du phénomène de l'eau qui sort par en bas, par en dessous, ça va créer des remous. À quelque part, tu peux pas survivre bien longtemps, puis t'as plus de nourriture au bout de... Même si tu t'accrocherais après un arbre ou après une planche ou après quoi que ce soit, après un certain temps, tu vas venir épuisé, tu vas t'endormir, puis... Tous les gens ont péri, parce que les Écritures nous disent qu'ils ont péri, toute la gang. Alors, c'est quand même prodigieux de voir que le Seigneur... Alors, il faut avoir une idée de la grandeur de l'arche si on veut savoir le niveau d'eau suffisant. 450 pieds de long. C'est un bateau, ça. 75 pieds de large. C'est un bateau, ça. 3 étages sur 45 pieds de haut. Ça prend-tu de l'eau pour élever ça de terre? Ça en prend pas mal, je pense. Et dans le verset 20, ça nous donne une idée jusqu'à quel point ça s'est élevé. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des endroits les plus élevés de la terre. Et les montagnes furent couvertes. Alors, quelque part, souvent aujourd'hui, quand on regarde la science, ils trouvent des affaires de poissons sur des montagnes. Bien, si on croit aux Écritures, il n'y a rien d'incompréhensible là. Mais quand on leur arrive avec l'explication des Écritures, c'est sûr qu'ils vont le rejeter. Ils vont trouver toutes sortes d'autres... Mais il reste que les Écritures nous expliquent pourquoi ils vont trouver des poissons comme incrustés dans la pierre, des fois, à ces hauteurs-là. Versets 21 à 24, « Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant des oiseaux que du bétail, des animaux, de tous les reptiles qui se traînent sur la terre et de tous les hommes. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines, tout ce qui était... sur la terre ferme, mourut. C'est-tu clair? Hein? Il n'y en a pas qui s'en sont sauvés. Tout le monde sont morts. Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés. Depuis les hommes jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux des cieux, ils furent exterminés de dessus la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Et on va voir dans le chapitre suivant que ça restait encore plus que 150 jours parce qu'avant qu'ils atterrissent sur le mont Ararat et que les eaux baissent, ça a encore pris... Ils ont été là plus qu'un an. Alors, c'était toute une expérience. Alors, dans le verset, dans le chapitre... si vous allez voir la semaine prochaine, vous ne pouvez pas vous le dire tout de suite parce que ça ne sera pas le fun. Dans le chapitre 8... On va voir que les Écritures nous donnent encore une date. Donc, il y a eu la date exacte du début, mais on va voir que le Seigneur a permis que l'arche arrive sur le mont Ararat à une date très précise et que quand on connaît la date et qu'on fait un parallèle avec la théologie qu'on connaît, les deux bras vont vous tomber. Moi, en tout cas, la première fois que je l'ai lu, les deux bras m'ont tombé. Parce que c'est dans les Écritures, mais on ne porte pas attention à ces choses-là, alors que c'est glorieux, c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit quelque chose à travers ces saintes Écritures. On va le voir la semaine prochaine. Comme ça, c'est une façon un peu comme à la télévision, quand ils vous disent, ben, vous le verrez la semaine prochaine, regardez le... Tout le monde va venir. Alors... Donc, 150 jours exactement après le début du déluge, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat, le 17e jour du 7e mois de l'année civile juive. Je vais vous dire ça tout de suite, mais après ça, on va revenir pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé le 17e jour du 7e mois de l'année civile juive. Ça, c'est intéressant parce que, pourquoi, des fois, parce qu'on peut se demander, on lit les Écritures, on arrive au chapitre 8, puis là, le Seigneur nous dit... Le bateau atterrit sur le mont Ararat. Puis là, il nous donne une date. On se dit, veux-tu bien me dire que ça fait là? Pourquoi il nous donne cette date-là? Vous le saurez la semaine prochaine. Alors, le chapitre 7 du livre de la Genèse est une illustration très puissante du principe suivant qui nous dit dans les Écritures, dans Genèse 10, verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, autant les gens ont dû avoir une frousse monumentale quand ça a commencé à se produire et que ça s'est développé et qu'ils ont fini par... Imaginez-vous les cris. Des fois, c'est parce qu'on ne s'arrête pas à penser à ce que 2 millions de personnes... Il y a juste un petit événement, je ne sais pas, dans un cinéma, là, puis que le monde commence à paniquer, ça hurle, ça crie, ça se pile les uns sur les autres. Imaginez-vous 2 millions de personnes qui sont en panique en même temps. Ça devait pas être drôle. Ils devaient entendre des hurlements, ça devait. Les animaux aussi et tout ça, là. On essaie, tu sais, les Écritures ne nous donnent pas de détails là-dessus, mais je pense qu'on est on a assez d'imagination pour voir que les choses devaient être terribles. Alors, c'était vraiment une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je pense que le passage nous enseigne plusieurs choses. J'en ai noté 7. Pas mal sûr qu'il y en a plus que 7. Même, je suis très sûr qu'il y en a plus que 7, mais je vais vous en nommer quand même 7. La première, le Seigneur veille et exécute sa parole. Si on retiendrait celle-là d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, on a retenu une chose importante. Le deuxième, le Seigneur est infiniment saint, il hait le péché et il rétribue le juste et le méchant. Le juste, il lui a donné la vie, il lui a donné de devenir la lignée par laquelle le Messie était pour arriver, et le méchant, ils ont jugé le péché au point qu'ils ont tout détruit. Alors, ça dit dans Proverbe 11, verset 31, « Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution. » Qu'est-ce que c'est en train de nous dire à nous? Nous, on est les justes, parce que le Seigneur nous a déclarés justes. Puis il nous dit que si on pêche, on va recevoir une rétribution. Ça veut dire que le Seigneur va envoyer des jugements. S'il envoie des jugements dans la vie des justes, imaginez-vous combien, et le reste du verset 31 dit, combien plus le méchant et le pécheur. Le Seigneur juge à tour de bras, à longueur d'année autour de nous. Et des fois, il envoie des petits jugements dans nos vies aussi. Puis souvent, les jugements que le Seigneur envoie dans nos vies sont miséricordieux. Mais des fois, ils font bobo pareil. Ils font bobo pareil. Troisième leçon, suivons l'exemple de Noé. Par sa foi agissante. Construire sans flancher pendant 120 ans une prédication fidèle et des avertissements aux méchants et une exécution exacte de la volonté de Dieu. On a-tu des leçons à apprendre de Noé, nous autres, pensez-vous? Dépendamment de l'âge qu'on a, ça veut dire que supposition que vous avez 40 et que le Seigneur va vous laisser vivre jusqu'à 80. Ça veut dire qu'à tous les jours, vous devriez avertir les gens que le jugement s'en vient. Au risque de faire de vous autres. C'est ça qui se produisait avec lui. Alors Noé, il y a beaucoup de leçons à nous apprendre. C'est un homme qui avait une foi forte et agissante. Quatrième leçon, l'absolue souveraineté de Dieu sur sa création. Être capable de produire de la pluie pendant 40 jours et 40 nuits, d'ouvrir, de briser la côte terrestre et de prendre les eaux souterraines et de faire monter à surface, ça prenait une puissance, pas à peu près. Une intelligence aussi. Cinquième application, la miséricorde de Dieu dans nos vies est constante et générale. Il nous prodigue ses tendres soins avec fidélité. La preuve, il a pourvu à leur nourriture, il a pourvu aux animaux pour qu'après le culte, après le déluge, que tous les besoins de l'homme puissent être... Alors, il fait la même chose pour nous. Il y a des leçons à apprendre là-dedans. La sixième, c'est que le Seigneur bénit avec une grande abondance ceux qui le craignent. On parlait de crainte de Dieu ce matin. Le Seigneur dit qu'il bénit. Anna nommé une, Lucia dit une longue vie. J'ai déjà fait une étude sur la crainte de Dieu. Et les bénédictions qui viennent avec le développement de la crainte de Dieu dans nos vies, c'est extraordinaire. On se devrait tous d'étudier ce sujet-là. C'est un sujet bénissant de l'apprendre parce que Dieu dit qu'il bénit de façon très abondante et de façon très variée, même en donnant des années de vie supplémentaires et plein d'autres choses, là. Il dit qu'il est proche de ceux, il dit qu'il te guide, il dit qu'il t'écoute. Il dit qu'il... Quand on craint Dieu, là, Dieu nous bénit d'une façon extraordinaire. Et la septième et dernière, la victoire morale est possible, même dans les pires moments d'apostasie de l'humanité. Si t'as-tu un moment de l'humanité où ça a mal sur la terre dans le temps de Noé? Ça pouvait aller plus mal, le Seigneur avait décidé qu'il détruisait à cause que tout le monde t'a rendu méchant. Ça ressemble-tu à nos jours? Alors la victoire morale, autrement dit d'agir, et d'obéir à Dieu, même dans les moments où c'est difficile autour de nous. C'est possible parce que le Seigneur nous montre des exemples de ses serviteurs qui ont agi correctement, qui ont obéi, même dans les moments difficiles de la vie. Alors que notre grand Dieu soit béni pour sa bonté, sa justice et son amour infini envers ses élus. Amen. Amen.